C'est un guerrier. Il tranche les montagnes, il s'ouvre un chemin dans le roc. C'est un roi souterrain. Il s'enfonce dans des ténèbres vertes qui épouvantent. C'est un cheval au galop. Il traverse en bondissant des déserts sauvages et romantiques. C'est le Verdon vu par Jean Giono, le Verdon du poète. Faisons un bond en arrière de 140 millions d'années à l'époque où la Provence se trouvait sous les eaux d'une mer chaude et peu profonde, la Tétis, une sorte de lagon tropical. Pendant 15 millions d'années, des squelettes de coraux, des sédiments arrachés au continent, des coquilles, s'accumulent au fond de la Tétis et se transforment en roches calcaires. À l'ère tertiaire, voici 60 millions d'années, le continent africain qui dérive vers le nord entre en collision avec l'Europe, provoque la formation des massifs provençaux et le soulèvement des Alpes. La Tétis disparaît. Elle laisse plusieurs centaines de mètres de roches sédimentaires, en grande partie constituées de coraux fossiles. L'érosion va sculpter des paysages extraordinaires dans les barres et les plans calcaires des préalpes du Sud, comme les gorges du Verdon, le plus profond canyon d'Europe. Voilà le point de vue du géologue. Les eaux du Verdon creusent des grottes dans les falaises, telle la Bombonne à Quinçon. Voici 10 millions d'années, elle se trouvait au même niveau que la rivière. De leur côté, les eaux de pluie s'infiltrent à travers le plateau en suivant les fractures du terrain. Elles vont dissoudre le calcaire et former la partie intérieure de la grotte avec sa cloche de 22 mètres de haut. Le Verdon descendra jusqu'à 50 mètres au-dessous de l'entrée de la Bombonne, qui devient ainsi une grotte perchée, avec beaucoup d'atouts pour attirer et retenir les hommes au temps préhistorique, avant de devenir le domaine des archéologues dans la seconde moitié du XXe siècle. Ils sont tous venus ici pendant 500 000 ans, des antés néandertaliens aux Cro-Magnon, en passant par l'homme de Néandertal. Ils ont laissé des témoignages variés, plus ou moins abondants, plus ou moins bien conservés de leur séjour.
En cette année 1946, dans les gorges du Verdon, notre Colorado français, une découverte archéologique du plus haut intérêt vient d'être signalée à la communauté scientifique par M. Bernard Bottet. En effet, à Quinçon, une grotte, la Baume Bonne, ce qui signifie tout simplement la Bonne Grotte, commence à livrer ses secrets. Avec l'aide de son fils Bertrand, M. Bottet a entrepris de fouiller un gisement dont nous ne doutons pas qu'il sera riche en surprises et révélations pour les préhistoriens dans les années à venir.
Entre 1957 et 1968, Henri de Lumley et son équipe mènent une grande campagne de fouilles à la Bombonne dans le cadre de recherches plus vastes sur l'ensemble du Verdon et du sud-est de la France. Il faudra évacuer de gros blocs de pierre, construire des murs de protection, étudier la stratigraphie du site pour comprendre son histoire. La stratigraphie retrace l'histoire des couches successives du terrain. Elle permet de replacer chaque témoignage du passé dans son contexte géologique et archéologique. Sans ce travail préalable, aucune recherche scientifique sérieuse n'est possible. En 10 ans, les fouilles d'Henri de Lumley ont permis de recueillir près de 80 000 pièces archéologiques dans les différents niveaux de la grotte et surtout de l'abri sous roche. En 1968, le chantier s'arrête pour 20 ans. C'est l'époque où Électricité de France entreprend l'aménagement du Bas Verdon. Un barrage est édifié à la sortie des gorges de Quinçon. Il sera mis en service à partir de 1974. Les eaux de la retenue arrivent maintenant à une dizaine de mètres de l'entrée de la Baume-Bonne, où les fouilles reprennent en 1988 pour une dizaine d'années, sous la direction de Claire Gaillard et Jean Gagnepain. À la Baume-Bonne, un premier ensemble stratigraphique qui remonte à environ 500 000 ans renferme les traces les plus anciennes d'une présence humaine dans le Verdon, des outils archaïques taillés dans le silex. Un peu plus haut dans cet ensemble, une couche noire riche en cendres indique la première utilisation du feu. Au niveau suivant, entre 250 et 150 000 ans, voici des outils déjà plus évolués. Au fur et à mesure que les niveaux s'élèvent, on observe des méthodes de taille de la pierre toujours plus élaborées. Les niveaux supérieurs indiquent la présence de l'homme moderne, les premiers agriculteurs et pasteurs du néolithique. Viennent ensuite les vestiges de l'âge des métaux. L'histoire de l'occupation de la grotte se lit ainsi à travers les couches du terrain, comme dans un livre ouvert. Après avoir établi la topographie du site, le préhistorien procède au carroyage. C'est un quadrillage du sol divisé en carrés d'un mètre de côté, désignés chacun par une lettre et un chiffre. Les fouilleurs disposent alors de repères horizontaux et verticaux précis pour situer chaque objet dans l'espace et la stratigraphie. Les fouilles de la Baume-Bonne ont révélé une occupation exceptionnellement longue de la grotte. Je ne vous raconterai pas l'histoire de tous les hommes qui ont séjourné ici. Intéressons-nous aux plus anciens d'entre eux, ceux qui sont arrivés voici 400 000 ans, et peut-être même un peu plus, les ancêtres de l'homme de Néandertal. Le Verdon leur offrait toute l'année l'eau nécessaire à la vie. Le long du torrent, les anténéandertaliens pouvaient ramasser des galets de silex et en faire des outils. À ce stade archaïque, ils exploitaient au mieux les qualités naturelles de la pierre pour y débiter des éclats utiles à leur vie quotidienne. Ils trouvaient aussi de la matière première sur le plateau de Valensole voisin. Ils sont même allés dans d'autres vallées comme celle du Largue, à une cinquantaine de kilomètres de Quinçon, pour se procurer du silex de qualité. Ces premiers outils, choppeurs, racloirs, plus rarement des bifaces, sont d'assez grandes dimensions. Ces Homo erectus évolués vivaient de cueillettes et surtout de viande. De la grotte, ils pouvaient observer en contrebas les animaux qui traversaient le Verdon à gué, au débouché des moyennes gorges sur la plaine de Quinçon. Ils récupéraient des carcasses d'animaux morts et chassaient probablement la faune de l'endroit. Bisons, chevaux, cerfs, chevreuils, parfois des rhinocéros et surtout le bouquetin abondant dans la région. C'est ce que nous ont appris leurs restes culinaires, des ossements retrouvés à côté des pierres taillées qu'ils utilisaient pour dépecer et débiter le gibier. Il devait faire bon vivre à la Beaumebonne, voici 300 000 ans. Bonne exposition au sud, du soleil une grande partie de la journée, un abri qui protège de la pluie et des vents froids comme le Mistral. Les occupants du lieu commencent à améliorer le confort de leur habitat. Ils ramassent des galets de grès choisis avec soin et les disposent en grande surface ovale sur le sol humide de l'abri. Ces empierrements sont une des découvertes majeures faites à la Beaumebonne, une des manifestations les plus anciennes de structuration de l'espace connue au monde. Le feu est tombé du ciel avec la foudre. Il a surgi de la terre par la bouche des volcans. Le feu effraie l'homme, affole les animaux. Les premiers habitants de la Beaumebonne ne l'avaient pas encore apprivoisé. Aucune trace de foyer dans les niveaux les plus anciens de l'abri. Mais assez vite, vers 400 000 ans, les anté-néandertaliens vont s'en approcher, le capturer, le transporter jusqu'à leur habitation puis le domestiquer, avant de le faire naître de leurs mains. Le feu introduit une véritable révolution dans leur mode de vie. Il éloigne les animaux dangereux, apporte plus de sécurité. Sa chaleur, sa lumière permettent d'occuper les parties les plus profondes, sombres et humides de la grotte. Il modifie les pratiques alimentaires. On peut cuire la viande. On durcit la pointe des épieux avant la chasse. Les hommes se rassemblent autour du foyer. Et c'est toute une vie sociale plus complexe qui commence à s'organiser. Les techniques de débitage de la pierre ne cesseront plus d'évoluer pendant des centaines de milliers d'années. Après le biface, cet outil, symbole du paléolithique inférieur et moyen, dont nous ignorons toujours à quoi il pouvait bien servir, apparaît la méthode de débitage levallois. Elle permet la production maîtrisée d'une série d'objets identiques. Le geste est réfléchi, précis, et va donner un outil dont la taille et la forme ont été décidées au préalable. C'est peut-être là une première révolution industrielle. L'ours des cavernes, si fréquent dans d'autres régions pendant la préhistoire, était rare en Provence. Il en est pourtant venu un à la Beaumebonne il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Il s'était sans doute installé dans la grotte pour y passer l'hiver, et il est mort là, dans sa bauge. Les préhistoriens découvriront un jour son existence en retrouvant son squelette. Aux périodes troublées de l'histoire, la Beaumebonne fut le refuge naturel des pourchassés, des persécutés. Sous la Révolution française, un prêtre réfractaire y célébrait clandestinement le culte. Depuis le néolithique, les bergers et leurs troupeaux sont venus s'abriter ici. Ils ont mis leurs pas dans ceux des anté-néandertaliens et de leurs successeurs, venus à la Beaumebonne, un site privilégié pour connaître et comprendre l'évolution de l'homme dans le sud-est de la France depuis 500 000 ans.